Vous écoutez France Culture. École d'acteurs. Olivier Barrault, journaliste et écrivain, s'entretient avec Laurent Natrella de la Comédie Française.
Laurent Natrella, comme à chaque fois, je vais essayer de varier les angles, non pas d'attaque, mais enfin les angles d'approche du comédien que vous êtes, en commençant par le fait que vous êtes un homme du Sud. Et sans s'apesantir par trop sur l'autobiographie, en préparant cet entretien, cette conversation, j'ai vu, et ce n'est pas un secret, que vous êtes né à Marseille, mais en réalité, vos origines sont plus méridionales encore que Marseille.
Pourquoi vous dites ça? Je ne comprends pas. Yeah. Non, c'est-à-dire que oui, je suis né à Marseille. Mes parents étaient à Alger, ont vécu à Alger. Ils sont partis d'Algérie en 62. Ouais. Du côté de mon père, c'est une famille italienne qui arrive trois générations auparavant en Algérie. Une famille catholique italienne. Du côté de ma mère, c'est une famille juive qui arrive d'Espagne depuis très longtemps. Tout ce beau monde s'est retrouvé en Algérie, voilà, dans ce Maghreb. Et puis, il y a eu ce qu'on sait en 62, l'exil. Et moi, je suis né quelques temps après à Marseille. Donc voilà, en effet, le bassin méditerranéen, comme ça, a été un petit peu mon berceau. Et je suis constitué de toutes ces origines et de cette multiplicité aussi de cultures que je vis très fort, d'une manière assez forte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a ces conflits de cultures qui s'affrontent, il y a une part de moi qui souffre et c'est assez compliqué. Voilà.
Vous n'avez pas simplement vu le jour à Marseille, vous avez beaucoup vécu dans les villes de la Côte d'Azur. Vous me racontiez ça tout à l'heure et ça va d'ailleurs nous amener très rapidement au théâtre.
Oui, parce qu'après Marseille, je suis parti vivre à Cannes. Et j'étais au lycée Bristol et ensuite c'est vrai qu'on a déménagé à Golfe-Juan, Antibes, enfin toute la Côte d'Azur. Voilà, donc j'ai grandi au soleil, près de la mer, dans les calanques antiboises et golfe-juanaises. Et voilà, ça fait encore chaud au cœur et j'y retourne souvent, j'aime beaucoup.
Alors je voudrais qu'on évoque ensemble quelqu'un qui, je crois, a été pour vous peut-être le premier élément détonateur de ce goût du théâtre, qui est devenu votre métier, votre profession, c'est Julien Berthaud. Julien Berthaud qui a été sociétaire ici pendant au moins deux ou trois décennies, qu'on a peut-être un petit peu oublié, mais pas forcément, et qui, entre autres titres de gloire, a été maintes fois le partenaire du grand Pierre Fresnay, après qu'il eut quitté la Comédie Française. Je me souviens de lui dans L'Idée Fixe, par exemple, il y a un siècle à peu près. Et il était magnifique parce que dans L'Idée Fixe, face à Fresnay, arrivé à défendre quelque chose, à être présent, eh bien, il le faisait. Il avait joué aussi le neveu de Rameau, et d'ailleurs, avec le même Fresnay, de la manière la plus inoubliable qui soit. Racontez-nous votre rencontre avec Julien Berthaud. Est-ce que c'est lui qui a été le premier à vous orienter vers le théâtre ou pas? Comment ça s'est passé?
J'étais, je sais pas, en terminale ou en première année de fac. Un jour, ma sœur m'a dit que j'étais intéressé par le théâtre, mais très peu. En fait, j'étais une personne assez timide, toujours d'ailleurs, mais c'est vrai que la parole pour moi était quelque chose d'assez complexe. Et j'avais découvert auparavant que l'expression théâtrale était quelque chose pour moi d'assez essentiel, et je commençais à avoir quelque part en moi, même si je ne me l'étais pas avoué, que j'avais envie de découvrir ce que ça voulait dire faire du théâtre.
Et vous alliez au théâtre à ce moment-là, dans ces premières années? Vous alliez au cinéma, vous regardez la télévision?
J'allais très peu au théâtre, mais je me souviens très bien avoir eu un choc théâtral en tant que spectateur. Il y avait eu un voyage d'élèves en classe de première, et on était venu une semaine à Paris. Et ils avaient réservé des places pour le Richard II de Shakespeare, mis en scène par Ariane Mouchkine. Et je me souviens très bien ce jour-là, m'être dit, qu'est-ce que c'est que cette chose incroyable? J'adore ça. Et l'idée, la petite lumière de me dire, et je me souviens très bien du moment où je me suis dit ça, ce serait très bien d'être là-bas, sur scène. Voilà. Et puis ça avait disparu, et c'était revenu après. Mais c'est vrai que le choc de ce spectacle, Richard II, mis en scène par Ariane Mnouchkine, était quelque chose d'étonnant, le croisement de Shakespeare et de l'esprit japonisant qu'elle avait insufflé au spectacle, avec j'ai encore les tambours de Jean-Jacques Lemaître, le musicien qui travaillait avec elle, qui résonne encore, et la diction formidable de ses acteurs, je crois que c'était Bigot qui joue Richard II. Voilà, c'était un moment qui m'a extrêmement marqué, et je me souviens très bien, pendant la représentation, où une petite idée était passée dans ma tête à me dire, peut-être que ce serait bien d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, là-bas. Voilà, ensuite, il y a eu quelques petites aventures de théâtre avec le lycée, où j'avais vraiment senti, comme j'étais plutôt timide, c'était un petit peu compliqué de parler en public. J'aimais pas ça. Je me souviens très bien, une fois, notre professeur nous avait dit de mettre en scène des poèmes, et j'avais mis en scène, et j'avais joué dans un poème de Prévert, L'Orgue de Barbarie. Et j'avais senti absolument à ce moment-là que le fait d'apprendre un texte par cœur était formidable. La sensation du par cœur, du texte écrit par un autre était quelque chose pour moi de totalement libérateur. Et évidemment, le jour où on m'a dit « il paraît que Julien Berthaud enseigne au conservatoire d'Antibes », j'ai été voir ce qui se passait dans ce cours. Et j'ai été, dans un premier temps, extrêmement impressionné par la présence de Julien Berthaud, qui, avec sa voix magnifique, très grave, a été le premier à me présenter et à me faire lire tout d'abord les grands textes que j'ai très très vite appris. Et c'était quand même assez formidable tout d'un coup de me faire croire que je savais parler en alexandrin sans réfléchir. Et cette sensation était agréable, et c'est vrai qu'elle a été au départ de quelque chose de très important pour moi. Je sais qu'il y a deux styles d'acteurs, je les retrouve parfois dans mes cours. Il y a les acteurs qui font les pitres et les guignols dans les cours de récréation et qui font rire leurs copains et finalement qui ont envie d'être sur la scène de théâtre. Et puis il y a ceux pour qui le théâtre est vraiment un moyen d'expression. Moi, je fais partie de cette deuxième catégorie. Le théâtre a été vraiment quelque chose d'extrêmement important à ce niveau-là. Donc cette rencontre avec Julien Berthaud a été extrêmement forte parce que, évidemment, au-delà du premier travail des scènes que je découvrais, il y avait l'homme de théâtre qu'il avait été, et je me souviens très bien, j'avais très peu de culture théâtrale, que c'est dans le petit conservatoire d'Antibes, dans la petite salle du conservatoire d'Antibes, que j'ai entendu parler pour la première fois de Dulin, parce que Julien Berthaud parlait de lui, de sa vie. Il avait été régisseur au théâtre de la Porte Saint-Martin quand il était arrivé à Paris. Il avait rencontré Charles Dulin, qu'il avait eu comme professeur, puis ensuite avec qui il l'avait joué. Et puis tout d'un coup, on entendait Julien Berthaud qui parlait avec une drôle de voix comme ça. Et tout d'un coup, on se disait, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il lui prend? Et en fait, c'était l'arrivée de Louis Jouvet dans notre salle. Et il nous parlait d'Horace qu'il avait joué avec lui en imitant Jouvet. Et c'était tous des noms que je découvrais pour la première fois. Et tout à coup, vraiment, un pan entier de l'histoire du théâtre s'est déplié devant nous, devant les étudiants que nous étions alors. Et on a entendu parler pour la première fois du Vieux Colombier. J'ai entendu parler pour la première fois du Vieux Colombier à ce moment-là. J'ai entendu parler pour la première fois du Cartel des Quatre, de cette aventure, de l'aventure du théâtre non mercantile. Et puis j'ai entendu parler pour la première fois de la Comédie Française, ce qui est quand même fou, quoi, parce que c'est vraiment mon premier cours, et pas n'importe quelle Comédie Française en plus, puisqu'il avait vécu les années d'occupation. Ouais. Et que c'était assez étonnant ce qu'on entendait de lui par rapport à cette période, notamment face à la résistance, face au régime de Vichy, et comment la Comédie Française avait pu s'organiser à ce moment-là. Il y avait une résistance, il disait beaucoup que la plus grande résistance, c'était la langue française, qui était encore présente et qu'il fallait célébrer. C'était très beau d'entendre ça de sa bouche. Et puis, j'ai su après, enfin, il nous en avait parlé, qu'il avait aussi fait des actes de résistance en refusant de jouer dans certaines pièces, d'une manière assez discrète, parce que ça devait être sûrement très, très compliqué. Et ensuite, il avait aussi fait jouer une pièce d'un lieutenant qui était captif en Allemagne, Il avait réussi à récupérer la pièce et il avait réussi à faire une lecture à la Comédie Française. Donc voilà. Et puis après, on avait découvert en 1944 qu'il avait été vraiment réellement engagé dans la résistance. Paraît-il qu'on lui aurait proposé, avec Pierre Dux, à Pierre Dux et à lui, on leur a proposé en 1944 la direction de la Comédie Française. Proposition, d'après ce qu'il nous disait, qu'il avait décliné en disant « je pense que l'homme de la situation, c'est Pierre Dux ». Et, et il s'était retiré.
Vous êtes resté combien de temps à ses côtés ?
J'ai pris une année de cours et puis très vite, il nous avait vraiment convaincus tous. On était une petite équipe de cette aventure théâtrale. Moi, j'étais à la fac. Je n'étais pas très intéressé par la fac. J'allais surtout à la plage à cette époque-là. Je me retrouvais en haut de l'amphithéâtre avec la serviette autour du cou et des copains. Et on n'écoutait pas trop les cours. Mais en revanche, le théâtre était la présence du théâtre. Et puis ce qu'on a vécu avec lui était extrêmement fort. Alors j'ai lu beaucoup de livres à cette époque-là. J'ai lu toute la littérature théâtrale qui me tombait sous la main. Il nous a proposé, à ce moment-là, il nous a dit « faisons une troupe, créons une troupe ». Donc on avait monté une troupe d'acteurs, déjà. Donc, et on était très heureux. Et on avait créé à Antibes, le premier festival d'Antibes, dans le Fort Carré d'Antibes, qui est un lieu magnifique, qui a des cours intérieurs qui s'avancent sur la mer comme ça, et on avait joué des tragédies. Il m'avait tout de suite proposé de jouer Pyrrhus, de jouer Britannicus, et j'avais joué Narcisse, j'avais joué Célio dans Les Caprices de Marianne, enfin voilà. Il y avait eu comme ça une très belle aventure au bord de la mer, je me souviens, on faisait des italiennes sur la plage, et après on partait répéter dans le Fort Carré et jouer ses pièces. André Dussolier était venu faire l'inauguration du festival. Enfin voilà, ça avait été toute une magnifique aventure qui m'a vraiment poussé d'une manière un peu irréfléchi, parce que ça s'est fait comme ça, vers le théâtre. Mais c'était encore une époque où je n'avais absolument pas décidé de faire du théâtre. Je continuais la fac.
Vous avez quel âge, 20 ans à ce moment-là ?
À peu près.
Donc vous êtes encore à Antibes. À un moment, vous allez prendre le parti du théâtre. Oui. Professionnellement, en tout cas aspirer à la professionnalisation, puisque vous venez à Paris, c'est comme ça. Et là,
on va monter à Paris.
Oui, très bien. Donc vous êtes là, et là, cours d'art dramatique divers et variés, dont le plus célèbre. Et puis les choses se passent pas si mal, apparemment, pour le gamin détecté par Julien Berthaud.
Il y a un moment où je me dis, en fait, ça m'inspire, quoi. C'est toute ma vie. Les études, enfin, la fac, c'est pas ça. Je passe lamentablement un DEUG. J'arrive à la licence, mais je la réussis pas. Et en revanche, le théâtre arrive d'une manière riche et très forte. Et je dis à mes parents, j'aimerais bien monter à la capitale, faire du théâtre. Et ils m'ont dit, demande à Julien Berthaud, qui était mieux pour me conseiller. Et puis j'étais le voir. Et je me souviens très bien du trac que j'ai eu avant de lui parler. Et je lui ai dit, je voudrais être un acteur, je voudrais partir à Paris et tout ça. Et il m'avait répondu, très bonne idée. Et c'était parti.
C'est merveilleux, des gens comme ça.
Oui, c'était...
C'est merveilleux.
J'ai eu quelques rencontres de professeurs qui ont été assez essentiels. C'est souvent des gens qui ont été des passeurs extraordinaires. Et je pense beaucoup et souvent à eux. Il y en a d'autres qui jalonnent le parcours.
Donc vous montez à la capitale.
Donc je monte à la capitale. Et puis je prends quelques années de cours. Et à ce moment-là, je décide de passer le conservatoire. Ouais. Et je réussis le conservatoire. Et là, j'entre au conservatoire dans la classe de Madeleine Marion, puis Pierre Vial, et puis Daniel Mesguich. Voilà. Et c'est trois années formidables pour moi. La première année, un peu compliquée avec Madeleine Marion, que je découvre. On travaillait sur du Claudel et c'est vrai que c'est une année où je l'ai beaucoup écouté. Et cette année-là, j'ai compris bien plus tard ce qu'elle nous racontait. Quand elle nous parlait du chant, du style, de l'approche lyrique d'un texte, de cet engagement par rapport aux mots, c'est vrai que c'était un moment où je suis resté un petit peu en attente, en écoute. Je regardais mes camarades passer qui réussissaient très bien l'exercice. Cécile Brune était avec nous d'ailleurs, je m'en souviens encore. J'étais un petit peu en retrait, un peu débarquant à Paris et me construisant. Et comment dire, une grande, à ce moment-là, on va dire, timidité, un grand mur est revenu se mettre devant moi. Donc cette première année a été assez compliquée. Et j'ai eu la chance, en deuxième année, d'avoir comme professeur Pierre Vial, qui m'a dit, Laurent, je ne sais pas trop quoi te donner comme scène, je ne sais pas trop sur quoi tu vas travailler, donc tu vas me passer une scène à chaque cours. En gros, c'est ce qu'il m'a dit. Et ça a été, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, il me demande ça, c'est curieux, c'est étrange. On avait travaillé sur Vinaver, sur le siècle d'or espagnol, on avait travaillé sur Feydeau. Et tout d'un coup, il avait réussi à déclencher en moi une dynamique de travail extrêmement forte. Et Pierre, qui était un homme porteur, il était à la Comédie Française, porteur de son aura du travail avec Antoine Vitesse, entre autres, qu'il avait accompli. Et c'est vrai que ça a été une année formidable, une année de travail où il m'a permis réellement de m'exprimer, d'accoucher de plein de choses. Il me poussait à faire des personnages absolument incroyables dans des textes complètement différents. Et c'est vrai que je tentais de passer à chaque cours. Voilà, donc il y avait 3 cours par semaine et mon pari, c'était de voilà. Et c'est vrai que cette dynamique de travail m'a énormément aidé. Et c'était cette année-là, Antoine Vitesse est mort. Je me souviendrai toujours de la peine de Pierre, le matin, où on avait cours avec lui et où il était tellement touché par la mort d'Antoine Vitesse que nous n'avions pas pu faire cours et on était tous autour de lui. Moi, je ne connaissais pas bien Antoine Vitesse, j'étais jeune, j'avais vu un spectacle qui m'avait transformé. Non, j'en avais vu 2. Mais surtout celui qui m'avait vraiment très très fortement marqué, c'était le Lucrèce Borgia, avec Nada Strancar, qui était formidable, que je découvrais aussi sur un plateau. Et voilà, je comprenais qu'une page du théâtre était tournée et que cette page-là, on était en train de la vivre en direct avec des acteurs et des artistes qui avaient participé à cette grande aventure de théâtre. Pierre Vial était cette fois-ci ce passeur. Je me souviens d'ailleurs que l'horloge du conservatoire s'était arrêtée ce jour-là. Le soir, il était resté en panne pendant 2 jours. Mmh. Voilà, et on avait accompagné ce moment et cette page d'histoire du théâtre qui se tournait. Voilà, donc il a vraiment été essentiel pour me dire, vas-y, prends ta place d'acteur.
C'est magnifique ce que vous nous racontez là. Ce sont des choses qu'on n'entend pas souvent, sur la transmission, sur l'œuvre, on peut dire, de Vial à votre endroit. C'est magnifique. Et je me demande si le souvenir tellement ému que vous conservez, tellement fécond, créatif de cet enseignement que vous avez reçu au conservatoire, est-ce que ce n'est pas ça qui vous a donné à vous-même, le moment venu, le goût de la pédagogie? Parce que, là encore, préparant notre entretien, je constate à quel point vous êtes engagé dans la transmission à votre tour. Et ce, par des voies qui ne sont pas les plus banales, puisque en dehors d'enseigner au conservatoire, vous êtes maître de conférence à Sciences Po. Je ne sache pas que ce soit si répandu que cela.
Je crois que l'idée de la transmission est une idée essentielle, pas que au niveau du théâtre, c'est-à-dire qu'il faut s'appliquer à transmettre. Si la vie a un sens, il existe dans cette idée de la transmission. Finalement, je pense que c'est la chose essentielle. On a intérêt à encore planter des graines pour que les arbres poussent, c'est essentiel. Et on a intérêt à transmettre le savoir, à transmettre son expérience, à être en contact avec les jeunes générations. C'est ce qu'il y a d'essentiel si on veut que voilà une trace de notre histoire reste. Pas de mon histoire personnelle, mais en tout cas de l'histoire, et en l'occurrence de l'histoire du théâtre. Je pense que dans mon histoire théâtrale, les professeurs que j'ai rencontrés ont été des transmetteurs essentiel et des artistes, parce que il ne s'agit pas d'être seulement un bon prof, parce qu'il y en a beaucoup des bons profs, mais il faut savoir transmettre un petit supplément d'âme qui va tout d'un coup réveiller le cœur de l'acteur et surtout réveiller la créativité. En étant moi-même professeur et enseignant, évidemment, on peut leur apporter un savoir, on peut leur dire les livres qu'il faut lire, on peut les amener au théâtre, leur expliquer comment fonctionnent les théâtres. C'est notre devoir, on peut leur transmettre notre expérience, mais il y a une chose à faire, c'est à veiller sur l'éclosion absolue d'une nouvelle créativité. Et ça, on la connaît pas. On la découvre en transmettant. Et c'est ce que m'ont permis de faire certains professeurs. Et je les en remercie d'une manière infinie. C'est vrai que pour moi, ça a été une chose essentielle et j'ai souvent privilégié l'enseignement par rapport à ça, beaucoup plus qu'à d'autres formes de rencontres ou d'expériences artistiques. Parfois, je me suis retrouvé à être réellement épuisé, à donner des cours le matin, à répéter l'après-midi, à jouer le soir. Et pourtant, je n'arrivais pas à lâcher cette emprise sur l'idée de la transmission, le travail sur la transmission. Je me suis souvent dit, mais il faut arrêter d'enseigner, il faut aller passer des castings, tourner au lieu d'enseigner. Et quelque chose en moi répondait toujours non à ça. J'ai consacré beaucoup de temps et rempli mon temps d'une manière incroyable avec l'enseignement. Pour parler du dernier professeur que j'ai eu au conservatoire et qui a été aussi extrêmement important pour moi, c'est Daniel Mesguich qui, tout d'un coup, nous a réunis dans cette classe qui était absolument incroyable. On l'évoquait tout à l'heure, il y avait Florence Viala, Pierre Cassignard, Sandrine Kiberlin, Frédéric Pelger, Odile Cohen, une équipe vraiment de gens que j'ai retrouvés, avec qui j'ai encore des contacts. Et c'est vrai qu'on a la rencontre avec Daniel a été une rencontre essentielle. Il est sur un travail sur le texte qui est un travail formidable. C'est une exégèse réellement permanente de la pensée théâtrale. Et ça a été passionnant pour nous. Et après, la question de comment mettre cette réflexion, cette pensée, comme cette manière de déplier le sens par rapport à un texte, comment la rendre théâtrale et la rendre vivante d'une manière intéressante, ça a été ce qui nous a accompagnés pendant un an d'une manière folle, avec beaucoup de rire, beaucoup de joie, une énergie vraiment très, très dynamique, jusqu'au jour où, après un cours, il est venu me voir et il m'a dit... Donc là, c'était le professeur et il m'a dit, mon camarade, il nous appelait toujours mon camarade, est-ce que ça te dirait de jouer l'année prochaine Oreste dans Andromaque, Lubin dans La Seconde Surprise de l'Amour? On va monter un grand spectacle qui va s'appeler Boulevard du Boulevard. Ça va être un montage de scènes de boulevard. Tu vas jouer Lord Chandos dans Marie Tudor, Saturninus dans Titus Andronicus. Donc après un cours... où je n'avais pas encore...
C'est mieux qu'une scène par semaine, ça, ou deux ou trois. Non,
mais c'était tout d'un coup le lien au métier, et je me souviens très bien de l'émotion que j'ai eue à ce moment-là. Je n'ai rien pu lui répondre, et il m'a même dit, si tu veux pas, tu me le dis tout de suite. Hein. Et j'ai dit, non, je veux, et il est parti, et je crois que j'ai crié pendant une heure dans la rue, en sautant partout, et voilà, et tout d'un coup, le lien, une fois de plus, il a été un passeur, le lien, une fois de plus, à la pratique du métier a été fait par Daniel Mesguich, ouais. Par ce professeur qu'il était, ouais. Et puis ensuite, il y a eu l'aventure du metteur en scène.
Ce que vous dites, là, nous donne... terriblement envie d'approfondir cette part essentielle de votre métier à vous, les gens de théâtre, qui nous est, à nous, public, tellement opaque, qui est précisément la mise en scène. Parce que nous, ce que nous voyons, c'est un spectacle achevé. Quelque chose qui a été l'objet de soins, de travail, de réflexion, de disputes, au sens le plus noble du terme, d'inquiétudes en tout genre. Nous, on voit un produit terminé, en quelque sorte. Mais toute la gestation de cela, le choix par le metteur en scène de telle pièce, le choix de la distribution, et puis la matérialité de votre travail sur le plateau de la répétition, c'est des choses qui nous sont... Il y a des témoignages, et oui, on a filmé quelques cours de Jouvet, ou quelques mises en scène de Jouvet, il y a des choses. Mais ça reste extrêmement abstrait. Et moi, je me dis depuis longtemps que si on arrivait à faire percevoir ça au public, la réalité du travail de la mise en scène, ça serait d'abord des choses rares. On ne les voit pas souvent. Hein. Mmh. C'est tout à fait passionnante.
Il faudrait qu'ils viennent en répétition tous les jours.
Oui, alors ça, c'est peut-être pas non plus possible. Mais il n'en meurt pas moins que cette espèce de passage de l'abstrait le plus absolu, c'est-à-dire un texte poétique, à la chose la plus concrète qui est son incarnation, c'est bougrement intéressant. C'est d'ailleurs, ça s'appelle le théâtre, sauf erreur de ma part. Je voudrais vous poser une question de tout à fait un autre ordre. Vous avez fait allusion tout à l'heure à la multiplicité de vos origines. Un enrichissement, donc, une richesse en tout cas. Et j'ai constaté en travaillant, en préparant tout cela, que vous avez énormément travaillé précisément avec des metteurs en scène qui n'étaient pas de langue française. Alors je ne sais pas si c'est un lien ou pas, et d'ailleurs c'est pas très intéressant, mais il est frappant de voir que vous avez travaillé avec des Allemands, enfin un Allemand en tout cas, un Lituanien, un Américain, un Colombien, et d'autres encore. Est-ce que vous pensez que c'est parce que justement vous provenez au fond d'une multitude de cultures que vous êtes si bien trouvé à converser, à écouter, etc., y compris avec des gens qui ne parlaient pas nécessairement notre langue.
Absolument. Je crois qu'il y a une... J'entendais ce matin une phrase qui disait « Un lieu, c'est la somme de toutes les places. Voilà. » Si on considère que la Comédie-Française est un lieu et que je dois avoir une place... j'ai la sensation dans mon travail à la Comédie-Française que ma place, elle est à la frontière. Je ne sais pas comment exprimer ça. C'est-à-dire que je l'observe avec le temps. Et que cette frontière, c'est ce qui a fait que, je pense, j'ai été extrêmement curieux de ces aventures théâtrales. C'est vrai qu'il y a eu... On le regarde, on l'observe après coup, on ne décide pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant et important de noter ça. Que l'aventure avec Omar Porras, avec les Tejestan, avec Souleymane Al-Bassam, avec...
Même Bob Wilson.
Bob Wilson, on est parti à...
Luca Hemleb, enfin bref, Lucas Hemleb. Des Roumains, des Allemands...
La noce, voilà. C'est-à-dire que ce qui est essentiel pour moi, et je trouve que la Comédie française est formidable pour ça, parce qu'elle a... évidemment, elle a sa mission par rapport au texte, aux metteurs en scène français qui sont présents, qui sont formidables et qui est extrêmement importante. Mais elle est aussi tellement forte, et ça, je me l'étais dit lorsqu'on a vécu cette aventure incroyable de Pedro et le Commandeur.
On va y venir, parce que je voudrais qu'on s'y arrête, effectivement.
La structure est tellement forte qu'elle est capable d'accueillir, ou ce qui s'est passé avec Bob Wilson, elle est capable d'accueillir avec tous ses services, avec la force de compétence des services, elle est capable d'accueillir des visions artistiques qui sont exceptionnelles, extraordinaires, et le mélange des deux donne une alchimie qui est encore plus forte, et souvent les acteurs qui vivent des expériences avec ces metteurs en scène-là en sortent transformés. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après ces spectacles-là. Parce que la Comédie française est absolument capable d'accompagner la création extrême d'un artiste. Voilà. Et c'est ce qu'on a vécu sur Pedro, absolument.
Alors parlons de ça. Parlons de Pedro, du siècle d'or, d'Omar Porras, citoyen colombien. De votre travail, puisque vous teniez le rôle de Pedro, d'ailleurs, dans ce spectacle. J'aimerais que vous vous en souveniez pour nous. C'est un spectacle à base de masques, hein, autant que je me souvienne, qui ne va pas de soi non plus. Enfin, c'est... De façon, racontez-nous ça.
D'abord, le siècle d'or. Moi, c'est vrai que c'est rigolo aussi de voir comment, dans ma vie, les liens se sont faits, parce que je me souviens que dans ma classe chez Pierre Vial, on avait énormément travaillé sur le siècle d'or espagnol, et le voilà qui revient à ce moment-là, donc les liens se tissent, enfin le maillage se crée. Et donc cette aventure était un peu particulière. J'avais vu des spectacles d'Omar Porras, il arrive en disant « voilà, je ne distribue aucun acteur ». Donc déjà c'était un peu étrange cette chose-là, donc on avait tous lu la pièce, évidemment.
Il parlait français ou espagnol ?
Non, il parle français, il parle assez bien français. Et puis, il nous dit aussi, et ça aussi c'était un petit peu particulier, un petit peu original, voilà, je vais faire une première période de travail, on va travailler sur des impros, de la recherche, et puis ensuite on travaillera plus précisément sur le spectacle. Et on pensait tous que cette première période allait être finalement le choix des acteurs pour distribuer les rôles. D'ailleurs, certains acteurs n'ont pas du tout eu envie de participer à l'aventure, on arrivait, on savait qu'on allait faire partie d'une aventure artistique, mais on ne savait pas du tout quel rôle on allait jouer. Donc voilà, c'était original. Je pense qu'il fallait être un peu à la frontière pour accepter ce genre d'aventure. Et c'est vrai que l'équipe qui est partie sur cette aventure était absolument d'accord là-dessus. Et on a commencé à travailler, et là on a eu affaire et on a rencontré une technique théâtrale extrêmement particulière, extrêmement physique, avec un engagement du corps très fort, et puis le travail du masque qui était quand même quelque chose d'absolument magique, et la manière qu'il avait de faire vivre ça qui était absolument magique aussi. Le masque, voilà, contrairement à ce qu'on peut se croire, ça cache pas. Le masque révèle une partie de notre cœur, de notre âme, et ça j'ai pu le vérifier en regardant mes camarades travailler. C'est comme si on mettait tout à coup une loupe énorme sur un trait de caractère ou sur une particularité. Je me souviens d'un pro de Catherine Salvia, mais magnifique, où elle ne faisait plus rien, où tout d'un coup quand le croisement entre le masque et ce qu'elle proposait était effectué, c'était juste incroyable. Des impros de Laurent Stocker, de Nicolas Lormeau, de Christian Gonon, et tout à coup un univers nouveau réellement débarqué avec la présence de l'acteur qui n'était plus cet acteur, mais qui était un trait de sa personnalité qui était extrêmement grossi. Et je me disais, c'est incroyable de voir à quel point finalement ça révèle, et c'était des traits de personnalité qui étaient tellement justes, tellement vrais chez l'acteur, tellement cachés à un endroit de...
quelle partie du visage cachaient les masques?
Le haut du visage, ici, comme ça.
Donc, restait apparent
la bouche.
La bouche et le bas du visage, donc. Mais vous avez été, au moins à deux reprises, confronté à des choix de mise en scène, à des paris tout à fait hors du commun. Vous évoquez là l'expressivité d'un visage masqué. Bon, on sait depuis l'Antiquité, effectivement, que le masque fait partie, au premier chef, du métier du comédien. Néanmoins, on n'est plus dans l'Antiquité, dans le théâtre d'Épidaure. Deuxième chose, pour un spectacle récent, inoubliable, du Vieux Colombier, vous avez appris le langage des signes. Donc, vous êtes, au moins à deux reprises, au cours de votre parcours, en cours ici à la Comédie-Française, confronté à, des difficultés, en tout cas des situations complètement inhabituelles, qu'on pourrait qualifier d'anti-théâtrales, a priori. Or, la preuve est faite, grâce au talent des metteurs en scène et des interprètes, que justement, cette espèce de privation devient finalement un ajout. C'est-à-dire qu'au lieu de retrancher, ça ajoute.
Oui, je suis absolument d'accord. Et c'est comme si, la technique, l'approche technique de ces metteurs en scène sur le jeu de l'acteur va créer une libération d'une partie peut-être plus cachée de l'expressivité de l'acteur. Et ces metteurs en scène-là, qui ont expérimenté ces techniques vraiment d'une manière poussée, arrivent ici et nous le transmettent. Alors il y a encore, de la pédagogie, de l'apprentissage. Il faut se prêter à ça, il faut se prêter à ce jeu. Il faut lâcher prise sur ce que peut-être on a l'habitude de faire et ça nous met réellement en danger. Et puis en plus, à la Comédie Française, des fois on se dit on est un peu fou. Le soir de la première des Tégestanes, on s'est dit faire ça à la Comédie Française, on est complètement taré. Et pourtant, l'aventure artistique, l'aventure de l'acteur est essentielle. Et je sais que j'ai été et j'ai essayé d'être dans ces aventures au maximum. C'est-à-dire que c'est un petit peu des aventures de l'extrême. Et c'est vrai que on évoque les enfants du silence, c'est un an d'apprentissage de langue des signes, et la sensation que j'avais sur le plateau, c'était de jouer réellement deux spectacles en même temps, c'est-à-dire qu'il y avait un spectacle qui était compris par les sourds, et un spectacle qui était compris par les entendants. Et cette sensation était réellement perceptible. Jouer un spectacle, parler comme acteur en même temps deux langues à la fois, normalement, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a qu'une bouche. Et là, tout d'un coup, c'était possible. Et cette sensation est unique. C'est-à-dire que réellement, il y avait des réactions liées aux signes et des réactions liées à ce qu'on pouvait prononcer comme mots. Cette sensation était extrêmement concrète sur le plateau. Ça a demandé un travail inouï. Et en amont, moi, j'ai découvert la langue des signes à ce moment-là. Je ne la connaissais pas. J'ai appris avec Joël Chalude, qui a été un coach vraiment formidable avec nous. Une patience, un pédagogue, encore une fois, un enseignant. Une fois de plus, ce qui est essentiel pour moi, c'est d'apprendre, c'est de découvrir. Et là, j'ai vécu cette expérience d'une manière extrêmement forte. Et je me souviens d'une avant-première qu'on avait fait. On avait fait un tout petit bout de filage de la pièce devant l'école de l'INJS. Donc l'Institut National des Jeunes Sourds, qui était venu, et c'est la première fois qu'on jouait devant des sourds. On avait juste eu le regard de notre coach, et ils avaient tout compris. Et alors là, la sensation de joie, c'est-à-dire de voir que finalement notre travail portait ses fruits et était vraiment d'une telle exigence que ça pouvait passer, alors qu'un an auparavant, je ne connaissais pas cette langue, pour moi, ça a été une expérience théâtrale extrêmement forte. Ah non, c'est là. Je parle encore avec les mains.
C'est terrible. Bon, on ne vous changera pas, et c'est très bien comme ça. Vous avez parlé de Tégestanes, qui était un groupe de théâtre belge, flamand d'ailleurs.
Ouais. Alors, il y avait Tégestanes, Deco, Discordia. Ce sont trois compagnies qui ont l'habitude de travailler ensemble, mais ils aiment bien qu'on nomme les trois. Donc...
Mais vous avez tout à fait raison. C'est des Belges et des Néerlandais, d'ailleurs. Mais ce que font ces gens-là, qui commencent à être très, très, très réputés, qui viendront sûrement ici bientôt, un jour en tout cas. Moi, j'ai eu la chance de voir à Bruxelles Tégestanes interpréter un texte de Bergman avec Georges Escalier. Oui. C'est l'année dernière, il n'y a pas longtemps. C'est absolument sidérant. Hein. Avec des acteurs belges parlant français, mais avec un fort accent, mais c'était magnifique. Hein. C'était impressionnant et très très physique en même temps. Et je voudrais revenir à ça, si vous permettez, à vous écouter. Quand vous jouiez Les Enfants du Silence, nous les spectateurs, je crois pouvoir le dire, on avait peur pour vous. Non, parce que le pari, ce que vous avez accepté de jouer, jouer dans une autre langue, bon déjà ça va pas de soi, mais en plus celle-là est bien particulière, c'est pas une langue étrangère, c'est une langue du corps. C'est pas un vocable différent, c'est tout à fait autre chose. Bon. Et ce à quoi vous aboutissiez les unes et les autres, vos camarades et vous, était d'une telle tension, et en même temps tellement perceptible pour nous les spectateurs, que quand je dis qu'on avait peur, oui, on avait peur. Et je me dis que vous deviez avoir peur, vous aussi, tellement l'enjeu physique était écrasant là-dedans, non ?
Je ne sais pas si la peur, le bon mot, mais c'est vrai que l'engagement physique est écrasant. Parler avec les mains, c'est étrange, hein, parce que pendant l'apprentissage, je me souviens très bien qu'à un moment, et ça m'est arrivé plusieurs nuits, lorsque je rêvais et que j'avais un mot qui passait dans ma tête, je le signais avec mon bras et je bougeais et je me réveillais, je réveillais ma femme. Donc c'était pour dire à quel point l'engagement physique est profond. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup une expérience absolument incroyable. Et tous les gens qui apprennent la langue des signes vivent cette chose-là et ce moment-là. C'est pour dire à quel point finalement le corps s'engage dans cette aventure. Et il y a un ami qui me disait qu'il faudrait te faire un scanner du cerveau avant et après pour voir les connexions il paraît que comme quand on joue du piano, il paraît que les connexions changent et qu'il m'a dit je suis sûr que là ça s'est transformé, et en effet ça s'est transformé puisque la nuit je bougeais comme ça et donc il se passait quelque chose dans mon corps physiquement, donc j'étais traversé par une expérience qui est particulière. Donc voilà, c'est sûr, je ne sais pas si voilà, il y avait le spectacle, c'est-à-dire que cette volonté de réunion de mondes différents, je pense que c'est plus ça qui nous faisait peur, qui était compliqué, de voir finalement l'échec de cette rencontre, et dans cette différence, mais la volonté de ces deux personnages de se retrouver, et pourtant ils n'y arrivent pas, je pense que c'est ça qui fait peur et qui est violent.
On a évoqué les nationalités différentes des metteurs en scène avec qui vous avez travaillé. Je voudrais qu'on parle un peu du monde arabe, puisque vous l'avez également fréquenté.
Quand j'ai su qu'il y avait la première pièce en langue arabe qui entrait à la Comédie-Française, je me suis dit on l'a joué ouais. en français évidemment, hein, ouais. C'était traduit. Sadala Wanouz était en plus un auteur syrien extrêmement engagé et qui dans ses pièces décrivait en amont absolument tout ce qui se passe en ce moment. Pour moi, c'était essentiel en tout cas de rencontrer cette écriture et de travailler là-dessus, et au-delà de ça, de travailler sur l'événement qui était que le premier texte en langue arabe entrait à la Comédie Française. Une fois de plus, j'étais à la frontière, à ma place de la frontière, et de cette frontière où j'avais envie de créer ce lien. C'était important, ça a été un événement assez... fort, difficile aussi. Il était compliqué, il était difficile ce spectacle. Et je suis aussi heureux, exactement comme finalement on a fait. À un moment, on a décidé de faire entrer la langue des signes à la Comédie-Française. Je suis heureux à chaque fois de créer cette possibilité d'ouverture. Donc d'ouverture des regards, d'ouverture. Oui, finalement, des cultures, parce que la France et la Comédie Française est tellement forte qu'elle ne sera jamais détruite par cette ouverture-là et par ces croisements qui sont bons à vivre. Voilà. En tout cas, pour moi, ils sont bons à vivre. C'est justement à cause de ma constitution, un patchwork, une sorte d'habit d'arlequin de l'âme, quoi, qui fait que je suis extrêmement sensible à ça. Et en effet, c'est vrai que je le remarque après coup. Vous me le faites presque remarquer qu'il y a surtout beaucoup de metteurs en scène étrangers. Alors, ça correspond à quelque chose, en effet.
Et d'auteurs, pas simplement de metteurs en scène. Mmh. On bouleverse la chronologie et c'est très bien comme cela. Je voudrais évoquer avec vous une ou deux autres personnes qui, me semble-t-il, ont eu l'influence plus que ça, peut-être, qui vous ont rassuré ou qui vous ont orienté. Jean-Pierre Miquel, par exemple. Mmh.
Jean-Pierre Miquel avait été mon directeur quand j'étais au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Ensuite, on avait eu une première expérience théâtrale. On jouait le joueur de Régnard et on était parti en tournée en Europe. Et il avait monté à ce moment-là une lecture de texte de Jean Villard. Et c'est la première fois qu'on travaillait réellement ensemble sur un même texte. Et on s'était rencontrés comme ça. Pour moi, c'est une figure extrêmement bienveillante, extrêmement aidante, qui m'a d'abord accepté au conservatoire. Et puis, il m'avait proposé de jouer Sina de Corneille. Et on allait le jouer, les répétitions allaient commencer. Et il m'a appelé en me disant, voilà Laurent, j'ai été nommé à la direction de la Comédie Française. Je suis administrateur de la Comédie Française et je ne ferai pas la mise en scène. J'en suis désolé, j'étais bien triste. Le spectacle a quand même eu lieu, mais c'était pas lui qui avait fait la mise en scène. Et voilà, j'avais envie de le rencontrer dans le travail. Quelques années plus tard, je vais continuer à travailler à l'extérieur. Je reçois un coup de fil de Jean-Pierre qui me dit, avec sa voix très grave, « Allô Laurent, on a besoin d'un staccanoviste de l'art drama. » Donc,
c'est l'épisode Pierre Vial qui,
voilà.
C'est l'épisode Daniel Vesguiche qui se reproduit.
Voilà, il avait suivi mon parcours. C'est vrai que j'étais un travailleur dingue. En tout cas, les retours que j'ai eus de mes professeurs et des gens avec qui je travaillais, Daniel plus tard, me renvoyaient toujours cette espèce de frénésie, de passion pour le théâtre. Voilà, ça s'explique parce que j'avais juste envie d'apprendre des textes et de les dire, parce que c'est vrai que sinon je trouvais pas intéressant ce que j'avais à dire. Voilà, donc pour moi, je mettais tout dans les textes, dans le travail, dans le fait d'apprendre des textes, de les restituer, de chercher comment le faire. Et donc oui, il m'avait surnommé depuis le conservatoire le staccanoviste de l'art drama. Quoi. Et donc je reçois cet appel et il me dit Je pressentais, je savais qu'il était administrateur. Je me disais, ce serait vraiment un rêve, ce serait formidable. Et il me dit, voilà, il y a une audition. Vous êtes 10. Vous avez passé une audition et il y en a un qui sera choisi. Et est-ce que tu acceptes? Je lui dis, oui, ok, très bien. Et donc j'ai passé une audition, c'était Nicolas Lormeau qui me donnait la réplique. Et il m'a appelé le lendemain en me disant, ben voilà, tu es choisi. Donc c'était pour Arthur dans le ping-pong de Adamoff. Ouais. Et je te présente immédiatement Simon Haine parce que tu vas jouer Clitandre dans Les Femmes Savantes. Voilà. Et l'engagement s'est fait comme ça. Donc il a été vraiment important. Ensuite, je l'ai retrouvé comme metteur en scène dans Le Misanthrope. Je jouais Philinte et on avait aussi fait une...
Avec Podalides, sauf erreur, qui jouait Alceste. Avec Denis qui était très jeune pour jouer Alceste,
oui,
non
oui.
Est-ce que vous pensez que votre physique, qui n'est pas complètement banale, est-ce qu'il a joué en bien ou en mal dans la détermination de ce métier, le choix que vous en avez fait, et ensuite, dans la manière que vous avez eu d'assumer le métier de comédien?
Le physique, je sais pas.
La grande taille, un grand brun, bon, voilà. Sans chaussures noires.
En tout cas, ce qui m'a amusé beaucoup, il faudrait peut-être que je fasse attention et que je réfléchisse un petit peu plus à ça, mais ce qui c'est pour répondre à votre question. Je me suis énormément amusé à le transformer, ce physique. Comme un vrai plaisir de recherche, de travail d'acteur. À la Comédie Française, parfois, on a des rôles plus importants, et puis parfois, on a des rôles moins importants, et c'est formidable, et c'est comme ça que j'aime vivre la troupe. Et c'est vrai que parfois, sur des rôles moins importants, on a tendance à explorer des choses, des manières de marcher, des manières de... Voilà, alors, c'est plus ou moins heureux, j'ai envie de dire, mais en tout cas...
Qu'est-ce que vous avez vraiment raté, par exemple?
Oh, j'ose pas le dire ici.
Mais si, mais si. Ça ne sera pas porté contre vous.
Qu'est-ce que j'ai vraiment raté? Je sais pas.
Bon, qu'est-ce que vous avez vraiment réussi? Allez.
Je me cache.
Votre façon de... Bon, on va prendre les rustres récemment.
Alors, les Russes,
c'est marrant parce que vous êtes le quatrième interprète de ce spectacle consécutif. On a eu Giroudon, on a eu Zaonero, on a eu Debezer, il n'en manque plus beaucoup. Mais les autres, ils étaient venus avant, c'est ça le problème. Oui, revenons à vous, Laurent.
Alors, les Russes, enfin, ce que j'aime bien, c'est malgré tout arriver plutôt disponible à un metteur en scène. Les répétitions de Goldoni, c'est souvent difficile, et surtout ces pièces-là. En général, les répétitions des spectacles comiques sont compliquées. Quand on est arrivé en répétition, évidemment, on ne connaît pas encore bien le texte, texte, on n'a pas encore le rythme, on n'a pas même pas cerné la juste situation des scènes. Et quand on répète dans ces conditions, on sort de la répétition, on est juste désespéré. C'est juste qu'il faut que le travail se mette en place, que la dynamique et l'énergie à trouver dans ce genre d'écriture est compliquée à trouver. Et donc voilà. Donc j'ai commencé les répétitions avec Jean-Louis. Le rôle est quand même assez petit.
Oui, hein, y a c'est pour ça que je faisais allusion à ça.
Comme dirait,
oui.
10 lignes, comme dirait Catherine Salvia.
Mais prestance.
Et il a été joué, je n'avais pas vu les autres mises en scène. J'avais vu des extraits, mais je n'avais pas trop regardé le conte, comment il était interprété. Et on travaillait avec Jean-Louis, et il est plutôt écrit comme une sorte de bout en train qui va entraîner toute l'équipe, comme ça. En répétition, je l'ai proposé comme ça, et Jean-Louis me dit, avec l'accent, lui, vraiment, ça me fait plaisir de travailler avec lui, parce que je retrouve les sources. Il me dit, non, non, ça a été déjà fait dans la mise en scène de Savary, là, c'est tombé, on va pas faire. Je dis, oh ben, ok, donc je me propose une truc. Non, non, mais ça, je l'ai déjà vu avec, dans la mise en scène de Galabru. Voilà, en gros, il me glissait ça. Donc, j'ai dit, mince, bon, je savais pas. Et il me dit, bon, très bien, et si tu le faisais, si, il est pas content d'être là, et il râle tout le temps. Alors, j'ai dit, mais c'est compliqué, parce que c'est pas du tout là ce qui est écrit. Ça veut dire que dans les scènes, dans les situations, en fait, il faut tout transformer, tout. Il me dit, bah oui, il faut le faire. Donc, là. Et je me suis dit, bah, ok, très bien. Et au début, c'était difficile à trouver parce qu'il fallait prendre absolument le contre-pied permanent de la présence par rapport à ce qui est écrit comme une sorte de fêtard vénitien qui vient là pour animer. Voilà. Et du coup, il m'a dit, ah, mais c'est un personnage en contrepoint comme ça. Et donc, je me suis amusé à jouer le mec qui s'ennuie, qui a rien à faire ici, qui est perdu. Et voilà. Et comment le construire sur quand même une construction d'écriture qui n'est pas du tout ça là. Donc, on s'est bien amusé. Il avait prévu un costume. Donc, je me suis retrouvé avec cette espèce de grand costume jaune et les chaussures rouges, tout ça. Donc, ça a orienté aussi le personnage. Et puis, je comprenais aussi la vision qu'il en avait. Pour moi, il y a eu tout un moment où c'était assez compliqué de réunir ensemble le gars qui veut pas être là. Et en même temps, je me disais, mais pourquoi il veut être là? Bon, voilà. Donc, il y a eu des justifications intérieures. Et puis, voilà, finalement, ça s'est fait. Et puis, dans le travail, petit à petit, là, voilà, le corps s'est un peu transformé, la voix a un petit peu bougé. Et je pense, enfin, j'étais plus le grand brun. Plus du tout, avec ce petit maquillage blanc.
Un autre spectacle que vous avez interprété ici même, Pour un oui, pour un non, de Nathalie Sarraute. Bon, texte sublime s'il en fut. Et j'aimerais que vous nous racontiez comment on accède à l'invraisemblable subtilité du texte de Sarraute. Vous étiez mise en scène par Léonie Simaga. Oui, oui. Vous aviez des camarades qui n'étaient pas tout à fait négligeables. Vous allez nous faire un plaisir de les rappeler. D'ailleurs, je crois que pas impossible qu'un ou deux soient dans la salle.
Ah bon ? Il y avait Catherine Salvia, Serge Bagdasarian et Andjei Severin, évidemment. Voilà. Alors ça, c'était extrêmement fort comme aventure. Parce que d'abord, c'est dans l'écriture, la pièce, elle est hallucinante. La notion du tropisme est quelque chose qu'on connaît tellement. C'est cette petite faille qui tout d'un coup va révéler le monstre de l'humanité. Donc, c'est curieux d'ailleurs, parce que quand j'ai travaillé sur ce texte, j'avais lu pas mal cette notion, mais c'est vrai que je ne l'avais jamais expérimenté comme ça, et c'est vrai que tout d'un coup, j'ai passé une période où je voyais des tropismes de partout, et je me disais, si je creuse ça avec cette personne, ça va se finir en pugilat, donc je laissais tomber, donc ça va apporter vraiment la conscience de cette petite chose. Il faut pas y aller, quoi. Et Nathalie Sarraute parle de ça, et ouais, parle de cette faille qu'il faut explorer. L'intelligence de Léonie nous a amené, après des répétitions, mais passionnées. C'était des répétitions passionnées, et Andjei et Léonie parlaient tous les deux avec leur tempérament, qui ont tous les deux des très forts tempéraments, et il y avait des conversations, des discussions autour de la pièce, hein, même pas sur ce qu'on avait à faire sur le plateau, qui était incroyable. Voilà, il y avait du feu dans ces répétitions, il y avait quelque chose comme ça d'enflammé. Et puis après, il y a eu le moment des représentations où on se retrouvait œil dans œil avec Andjei, Et ça, c'est un souvenir qui va rester pour moi, pour toujours. Quoi. C'est-à-dire que son engagement physique, son œil, sa manière de jouer, sa manière de s'engager dans le travail, c'était étonnant. J'ai encore la vibration de sa voix dans mon oreille sur certaines répliques, et ça a été étonnant. Ça a été un travail très très fort, très troublant, très très remuant. Et c'était d'autant plus remuant que, justement, par rapport à au Grand Brun. Je jouais pour un oui, pour un non, et j'enchaînais avec Pedro El Commandeur. Mmh. Et très souvent, je jouais ici à 18h30, ou parfois dans l'autre sens. Je faisais la matinée et je venais après ici. Et puis après, on l'avait repris au Vieux Colombier aussi, d'ailleurs. On était aussi partis en tournée, mais en tout cas, il y avait une période où j'enchaînais les deux spectacles, et c'était mortel. Je crois que c'est ce que j'ai eu de plus difficile à faire, l'enchaînement des deux. Parce que pour un oui, pour un non, il fallait plutôt que je sois dans ce que j'étais, dans quelque chose de naturel de ma présence. Et c'était un grand écart au niveau justement de ce que j'adore découvrir sur l'expression théâtrale. Et donc c'était un grand écart entre la façon la plus directe de jouer et la manière masquée de Pedro El Commandeur. Et c'était une véritable douleur. Passer l'un à l'autre, c'était une véritable douleur.
Ça fait mal, ça.
Ouais, ça fait mal. Ça fait mal au corps. Ça fait mal au physique. Parce que c'est comme si, à chaque représentation, comme dans Les Enfants du Silence ou dans Omar Porras, le corps enregistre un réflexe physique qui va être lié à l'aventure théâtrale qu'on va faire, ou ce qu'on a pu vivre avec Bob Wilson ou plein d'autres spectacles. Le corps a vraiment une mémoire qui l'enregistre. Dans ma manière de faire, qui souvent fait que je renonce à mon propre physique et je vais chercher comme ça des choses un peu différentes, je sais que le corps s'engage beaucoup et il a une manière de vivre ça qui ça le met en jeu d'une manière réelle. Et c'est comme s'il fallait en une demi-heure, tout d'un coup, déprogrammer mon cerveau sur ce que j'avais à faire ensuite. Et cette chose-là était douloureuse, c'était dur, ça faisait mal, quoi.
C'est la première fois, je crois, que nous entendons un comédien de la troupe évoquer non pas la peur, ou pas seulement la peur, mais la douleur, le mal physique ressenti pour passer d'un emploi à un autre. Alors, il est vrai qu'il y a un grand contraste entre les deux. Oui, mais à la limite, ça fait partie de votre travail. C'est ça l'alternance, au fond.
Oui, c'est ça. Il y a des alternances qui sont plus simples. Quand le personnage repose plus sur soi, c'est évidemment plus simple. Mais je crois que si on parle du mal et de l'acteur, je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs de la troupe qui jouent avec des douleurs, et avec la maladie, parce qu'on est dans un rapport au métier où on n'a pas le droit d'être malade et où il faut y aller, quoi. Et je crois qu'on joue très très souvent avec la douleur. Alors, au moment d'entrer en scène, c'est les endorphines qui déclenchent ça. Font que on n'a plus mal, et puis on joue, et puis on sort, on a un nouveau mal. Donc je crois qu'on est très nombreux à avoir vécu ça, et puis on peut jouer avec 42 fièvres, et puis on arrive au théâtre, en coulisses, on est prêt à tomber par terre, et pourtant on joue quand même, et on ressort. C'est-à-dire l'énergie de la scène est quand même quelque chose d'assez dingue, d'assez fou. Et puis on ne peut pas se reposer, donc on n'a pas le temps de se remettre. Donc c'est cette chose-là, et je crois qu'on l'a tous vécu. J'ai vu très souvent des camarades en scène souffrir, et ne pas le dire, évidemment, passer au-dessus. Ouais. C'est formidable, c'est beau, c'est héroïque.
C'est votre métier.
Ouais.
Hein, le show must go on, hein, ouais, en toutes circonstances. Mmh. C'est d'ailleurs bien ce qui se passe.
Oui, oui, oui.
Est-ce que le maquillage, est-ce que les costumes, est-ce que la présence dans la loge, la solitude ou le silence, est-ce que ça vous aide, ou au contraire, quelquefois, ça peut même vous paralyser? Comment vous vivez ça? Revêtir un costume, vous maquiller, avoir le temps.
Ceci étant, je vis tout ça. On dirait que c'est terrible, mais je vis tout ça très bien. C'est certains moments où on peut se dire ça, mais je continue à rechoisir ce métier. Parce qu'on se dit souvent, est-ce qu'il faut que j'arrête? Non, je continue. Voilà, donc j'y réponds souvent à cette question. Ce qui est assez fou, c'est que sur un spectacle, il y a quand on arrive, c'est magnifique, Richelieu, parce que quand je fais visiter ou découvrir la Comédie Française souvent à mes élèves ou aux classes que je fais venir à la Comédie Française, je leur dis, si vous voulez vraiment découvrir la Comédie Française, vous prenez 4 places pour le samedi après-midi, le samedi soir, le dimanche après-midi, le dimanche soir.
Ouais.
Parce que vous voyez 4 spectacles, et tout à coup, vous prenez conscience de ce que c'est que la Comédie Française. Si vous voyez un spectacle, c'est comme dans tous les autres théâtres. Non, non, allez-y, donc vous allez à 14h, et puis après vous allez juste boire un coup, et vous revenez à 20h30. Et c'est vrai que le regard de ces jeunes, ils disent juste, mais c'est incroyable, c'est un autre décor. Ben oui, oui, oui. Et puis c'est les mêmes comédiens qui jouent. Lui, il jouait ça cet après-midi, maintenant il joue ça. Oui, oui, mais comment il fait? Et puis tu vas voir, parce que demain il joue aussi ça. Et puis et voilà. Et tout d'un coup, en voyant 4 représentations d'affilée ou en allant 4 soirs de suite à la Comédie Française, on prend conscience de ce que c'est que cette histoire, cette aventure.
Mais par exemple, les étoffes que vous revêtez pour le costume, ça peut être de la soie, ça peut être du velours, ça peut être, je sais pas quoi, du coton, de l'organdi, de la laine, etc. Vous y êtes sensible ou pas tant que ça?
Ah oui, la laine, c'est terrible.
Ça démange,
je peux pas, ça pique.
On vous l'évite peut-être.
Non, à part la laine, ça va. Mais en général, enfin, ce qui est vraiment super ici, c'est que dès qu'on a le moindre problème avec notre costume, on le dit à Sophie ou Aurélie, et puis c'est bon, quoi. C'est réglé dans l'heure. Et ça, c'est aussi la présence des gens qui nous entourent, qui nous accompagnent, et quelque chose de formidable et de tellement touchant. Je ne les remercierai jamais assez d'être présente de cette manière. D'abord pour le confort du costume en lui-même, c'est l'aspect technique. Et puis ça demande une vraie compétence de travail. Donc elles savent, si ça pique, elles savent exactement ce qu'il faut faire sur la laine. Et elles trouvent la solution. Et puis parfois elles sont tellement sensibles. Et quand on a le trac, elles savent très bien où se placer. Comment ne pas parler, ou les soirs où on a besoin, où on est un peu endormi, comment nous dynamiser. C'est extraordinaire la manière avec laquelle on est accompagné dans l'acte théâtral à la Comédie Française. C'est juste unique.
Oui, c'est bien l'impression qu'on a, effectivement. Tout à l'heure, dans la coulisse, quand vous êtes arrivé, j'ai senti que vous étiez moyennement à l'aise. Vous redoutiez ce que nous allions entreprendre quelques dizaines de minutes plus tard, une demi-heure ou une heure, peu importe. Et puis je vous ai vu à un moment vous lever, et j'ai vu s'installer en vous physiquement, ça se voyait sur le visage, comme une inquiétude, comme si effectivement on allait jouer quelque chose, et que vous étiez dans la situation du comédien qui va entrer en scène, et qui, en toute légitimité, peut avoir un peu peur.
Bravo, c'était ça.
Et ça, c'est quelque chose de très émouvant et très impressionnant, parce que vous êtes sociétaire depuis bientôt 10 ans, et vous êtes dans cette maison depuis 99, sauf erreur de ma part, enfin en gros, bon, c'est-à-dire que vous avez une pratique quand même considérable, et c'est comme au premier jour. Et j'ai eu cette impression, on vous voit, en gros, que, et ça serait comme ça jusqu'au bout, parce que ça peut pas être autrement.
J'étais avec Simon Haine sur le premier spectacle que j'avais fait à la Comédie Française, Les Femmes Savantes, et j'avais le trac ce soir-là, je crois que c'était une des premières, et puis en plus je découvrais l'alternance, donc on joue même pas tous les soirs, donc c'est compliqué. Donc au début, c'est vrai que cette chose-là était étrange. Et je lui ai dit, oh là là, mais j'ai le trac. Il m'a répondu, et tu vas voir, plus on avance en âge et plus c'est pire. De toute façon, je pense que je suis plutôt, avec le temps ça va, je le gère mieux. Le trac est quelque chose qui est bien présent, que j'arrive plus ou moins à gérer, de mieux en mieux, on va dire. Voilà, il y a plusieurs tracs. Il y a le trac qu'on aime avoir, celui qui stimule, qu'on a avant d'entrer en scène, et puis qui donne de l'énergie, surtout pour les premières. Hein. Après, c'est vrai que le trac disparaît. Comment dire? C'est un compère qu'on n'aime pas trop et avec qui on s'est habitué à vivre, quoi.
De toute façon, vous n'avez pas tellement le choix.
Non, on est obligé.
Il est là, il était là avant vous, il vous survivra.
Ouais.
Nous sommes donc à peu près au terme de cet exercice public, et c'est de nouveau pour moi une frustration terrible, parce que je vous garderais bien à mes côtés, si vous y consentiez, pendant encore une bonne heure et quart, et peut-être davantage. Merci beaucoup, Laurent.
Merci.
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 C'était École d'acteurs. Olivier Barrault, journaliste et écrivain, s'entretenait avec Laurent Natrella de la Comédie Française. Réalisation, Franck Lilin.